la croche oreille.
Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, l'émission consacrée aux sonorités nouvelles, aux musiques dites inclassables, une émission qui reçoit artistes et leurs œuvres sonores. Mon invité ce soir, Jean-François Laporte, c'est un créateur multidisciplinaire qui a établi son atelier, sa résidence, son chef-lieu, si je peux me permettre, dans l'univers de la musique contemporaine. Jean-François Laporte, on peut dire qu'il a une trajectoire artistique très singulière et atypique même à plusieurs égards. Né dans une famille plus encline à développer des sportifs que des artistes, il va rêver longuement de se frotter au monde musical. Formé dans les techniques du génie civil, il va matérialiser dans sa jeune vingtaine son désir de non seulement faire de la musique, mais d'en créer de nouvelles par le biais de nouveaux instruments et de sonorités nouvelles. Jean-François Laporte va donc se remettre aux études, développer de belles aptitudes à la composition et s'adonner graduellement à l'expérimentation sonore. Il acquiert ses lettres de noblesse, d'ailleurs, par l'invention d'instruments sonores inédits sur lesquels de réputés musiciens en exploiteront le formidable potentiel. Fondateur des productions Totem Contemporain, un organisme dédié à l'exploration sonore, Jean-François va développer au cours des 20 dernières années un réseau de collaboration sans pareil et diffuser son travail au Québec, au Canada et à l'étranger. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François il y a quelques semaines à propos de cette superbe trajectoire. Donc, parole à Jean-François Laporte. Jean-François, bienvenue à l'émission.
Merci de m'avoir invité, Gaétan.
Jean-François, écoute, je t'ai présenté aux auditeurs. Tu as un parcours assez diversifié au cours des 30 dernières années. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ces débuts de carrière. Tu as fait des études classiques en musique et puis va émerger ton intérêt pour l'expérimentation sonore. Comment ça émerge dans ton parcours?
Ben déjà, à la base, ça faut remonter très, très loin. En fait, moi, je suis passionné par la musique depuis que je suis tout petit. Par contre, je viens pas d'une famille pour qui ni la musique ni les arts étaient quelque chose de présent. Moi, je viens de la période sport. Donc, j'ai grandi dans une famille où j'ai fait tous les sports possibles, imaginables. Nomme-les, tout le saut de baril, patin de vitesse. J'ai pas mal tout fait. Puis je pensais, comme j'étais pas dans une famille où les arts existaient, je pensais que pour faire de la musique, il fallait être génie, puis que bon, moi j'étais pas génie, puis bon, regarde, c'est comme ça, puis on fait d'autres choses dans la vie, puis. Mais en 88, je suis allé en Afrique, j'ai fait Jeunesse Canada Monde. Et pour la première fois de ma vie, j'ai marché dans les rues, j'ai rencontré quelqu'un qui jouait de la percussion, puis il a vu que j'avais l'air intéressé, donc il s'est dit, c'est toi, puis il m'a donné un instrument, puis let's go, on joue, puis. Et c'était un choc de culture, tu sais, dans notre culture occidentale, pour faire de la musique, il faut que t'aies les codes, il faut que tu connaisses le langage. Et la première chose qu'on te dit, c'est regarde, va apprendre la musique, quand tu sauras jouer, reviens pour jouer ensemble. Alors qu'en Afrique, c'est pas du tout ça, c'est complètement l'inverse. Regarde, assieds-toi, prends un instrument, puis on va communiquer ensemble, puis c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une relation. On s'en fout que tu sois bon, que tu sois pas bon. On n'est pas là pour ça, on est là pour communiquer ensemble. Et ça a été un fait très marquant dans mon parcours. Quand je suis revenu, j'avais commencé des études en génie civil, je les ai finies. Ça faisait 2 ans que je travaillais dans un laboratoire de recherche sur le recyclage d'asphalte. Et j'avais en tête tout le temps, ça faisait 4 ans déjà que je suis revenu, j'avais 19, donc j'avais 24. Je me disais, mais tu sais, t'aimais la musique, peut-être pourquoi tu prends pas des cours de musique, t'aimais ça Mais je sentais 2 choses, que c'était pas ma place en génie civil, que vraiment, moi je suis un inventeur à quelque part, déjà j'inventais des nouveaux mélanges, mais comme j'étais pas un ingénieur, que j'étais un technicien en génie, j'avais pas de droit de parole, parce qu'évidemment, j'avais pas le type qui me permettait d'ouvrir ma bouche. Cette image de passer à côté de ma vie, par rapport à la musique, les deux ensemble ont fait que j'ai pris une année sabbatique. J'ai trouvé le collège Marie-Victorin, qui était le seul collège qui prenait des gens qui avaient pas de culture. Et j'ai pris un an, j'ai appris la musique par moi-même, j'ai regardé sur des tablatures pour savoir c'était où les notes. Je voulais rentrer en piano jazz à l'époque, mais j'avais pas de piano. Et le mec au téléphone me dit, si t'as pas de piano, peut-être assieds-toi à la guitare, ça peut être plus facile. Je me suis acheté une guitare, j'ai étudié des tunes de guitare de Fernando Sor, des petites tunettes là, de 30 secondes, 45 secondes. J'ai fait tout de suite en partant. On a monté avec 3 autres étudiants un cours de composition parce qu'il n'y en avait pas au Cégep Marie-Victorin. Puis moi, c'était la création, c'est la chose qui m'intéresse le plus, là. Même au tout début. Donc, on s'est payé un prof en privé qui nous donnait des cours en composition. Assez pour que la deuxième année, c'était 2 ans au Cégep Marie-Victorin, j'ai commencé à entendre parler de Michel Frigon de l'Université de Montréal, Michel Longtin, comme disait, oui, Michel, il est assez flyé, peut-être qu'il pourrait, il est assez ouvert pour comprendre ce que tu cherches, puis, hein. Et j'ai appelé Michel, puis il m'a dit, tu veux faire de la musique géniale? Je cherche des gens qui veulent faire jouer leurs pièces. Les compositeurs viennent étudier en composition, puis ils veulent pas faire jouer leur musique. Ils sont trop gênés, puis ils préfèrent écrire dans leur coin, puis que ça soit pas joué jamais, puis. Hein. Donc, j'ai participé au premier concert du CECO, le Cercle des étudiants en composition de l'Université de Montréal, alors que j'étais encore à Marie-Victorin, avec une pièce que je dirigeais moi-même pour 10 musiciens, 2 basses électriques avec des chanteurs. Et c'est un peu comme ça, en fait, que ça s'est ouvert pour moi.
Et tu vas, à partir de là, faire le cursus habituel du musicien à l'université aussi.
Ben écoute, j'étais chanceux. Moi, j'ai à l'époque, c'était obligatoire à l'Université de Montréal de faire un cursus mixte quand tu n'avais pas nécessairement de bagages. Et j'ai eu la chance qu'à l'époque, c'est Marcel Deschênes qui enseignait à l'Université de Montréal. Et Marcel, elle avait mis en place tout un programme pas un programme de cours, mais toute une approche qui te permettait de, par exemple, de dire, ben, moi, l'harmonie, finalement, je préférerais plutôt faire un cours de soudure parce que je pense que c'est important pour construire des instruments, que je sache souder. Puis Marcel a validé ça. Donc, j'ai été quand même chanceux d'avoir Marcel Deschênes qui m'a laissé m'exprimer comme j'avais envie de m'exprimer. Et puis, il m'a toujours accompagné là-dedans.
Oui. Jean-François, est-ce que Marcel Deschênes constitue une sorte de mentor dès le départ pour toi?
Ah, ben c'est clair. Ben, je pense que tous les élèves qui ont étudié avec Marcel à l'époque, ben, de Normando jusqu'à ceux un petit peu après moi, on avait tous des enseignements personnels. Elle arrivait à un cours, là, on avait parlé la semaine d'avant, puis la semaine d'après, elle arrivait avec un livre pour toi. Elle dit, tiens, ça me fait penser à ton projet, ça me fait penser à ça, lis ça. Ou je vais écouter tel film, ou lis tel auteur. C'est vraiment à chacun, c'était très très personnalisé comme enseignement. Puis je pense que ça fait que chaque personnalité, Pierre-Alexandre Tremblay, Normando, moi, on fait des choses qui sont complètement différentes, mais qui sont très proches de qui on est.
Et Jean-François, si tu veux, dans la tradition de l'émission, on va écouter une pièce de Marcel Deschênes.
Ah ben oui, avec plaisir.
Alors voilà, on vient d'entendre une pièce de Marcel Deschênes. Jean-François, dis-moi, comment on pourrait caractériser ta démarche depuis toutes ces années? Comment tu as tendance à te définir?
Moi, je pense que c'est assez clair. En tout cas, c'est clair pour moi. Là. Je suis quelqu'un qui est vraiment intéressé par le son, par la vibration, par l'origine, en fait. En général, quand j'écris pour instruments traditionnels, piano, violon, violoncelle, en général, je prends l'instrument et je cherche moi-même de un à m'approprier le geste qui va générer du son. En général, ce geste-là, il va toujours être tuné sur ce que mes oreilles entendent. Et comme c'est tout le temps la même personne qui entend, qui compose, ben, je cherche toujours à peu près les mêmes choses. En fait, je suis toujours hypnotisé par le même genre de type de son qui est hyper riche, qui est très vivant, dans lequel il y a beaucoup de fragilité, dans lequel le son peut toujours aller à gauche, à droite, vers différents univers. Et c'est ce qui me caractérise, en fait.
Dis-moi, début des années 90, là, il y a une poussée en puissance en termes de création. Qu'est-ce qui t'anime à cette époque-là? Et puis, ce serait quoi l'œuvre qui, parmi tes premières, sont un peu révélatrices là, de ce qui s'en vient dans les années qui vont suivre en termes de création sonore, d'expérimentation musicale?
Écoute, il y en a. C'est vrai que c'était quelques années, surtout la fin des années 90, j'ai beaucoup, beaucoup composé, mais j'étais aussi. Je découvrais tout le monde. Quand j'ai découvert l'électroacoustique avec Marcel, c'est comme aïe, aïe, on peut faire ces choses-là, c'est magnifique. Tout à coup, il y avait plein de possibles qui s'ouvraient à moi. Dans les premières que j'ai fait en 98, j'ai fait la symphonie portuaire du musée Pointe-à-Calière, où j'ai eu accès, grâce à la composition de cette pièce-là, à des cales de bateau, dans lesquelles j'ai fait une pièce sur mon disque Sound Matters qui s'appelle Dans le ventre du dragon. C'était une expérience magique pour moi de me retrouver dans un espace où il y a 22 secondes de réverbération et de comprendre. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, toute ma démarche, c'est par rapport à quelqu'un qui utilise une lexicon, une boîte de réverb en boîte. Tu vis jamais l'expérience de c'est quoi une réverb, de c'est quoi une cathédrale, de c'est quoi une cale de bateau, c'est quoi... Donc ça, tu vois, dans la cale de bateau, ça a été un des moments marquants. Pareil avec Mantra 97, où c'est une son unique, de son de compresseur, de refroidissement, de patinoire de hockey. Écoute, j'ai refait la prise à peu près 600 fois pour avoir une prise unique. Play record au début, stop à la fin. Ça dure 25 minutes. Je l'ai recommencé plein de fois parce que des fois, j'accrochais le micro. Des fois, il y avait un son qui me dérangeait. Pour arriver à avoir cette unicité-là, une prise unique qui a été vécue live par celui qui prend la prise de son. Puis qu'après, on l'écoute et on se dit, putain, on a l'impression que c'est une pièce qui est faite en studio avec plein de montage, plein de filtrage. Donc ça, c'était deux moments, je pense, assez marquants dans mon approche du son et ma découverte du monde sonore at large.
Jean-François, on va écouter un extrait, parce que c'est une pièce qui dure presque 20 minutes, mais on va écouter un extrait ensemble de Mantra.
CKRL. La croche oreille.
Eh bien, c'est la croche-oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL de 89.1. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver la liste des pièces entendues ce soir, ainsi que les émissions diffusées en balado pour écoute immédiate ou encore en différé. Cela dit, je reçois ce soir l'artiste sonore compositeur et facteur d'instruments technologiques, Jean-François Laporte. Actif sur la scène artistique du Québec depuis le milieu des années 90, Jean-François poursuit une démarche qui amalgame l'art sonore, la composition musicale et la performance. Formé à l'Université de Montréal et à l'IRCAM de Paris, il a développé des compositions basées sur l'écoute et l'observation. Aguerri aux arts et aux techniques numériques, il a inventé de nouveaux instruments de musique qu'il intègre à ses œuvres, des instruments sonores dont le potentiel a fait jusqu'à maintenant le ravissement de nombreux artistes collaborateurs. Jean-François est fondateur de la compagnie Production Totem Contemporain. Il a écrit plus de 60 œuvres, parmi lesquelles certaines se sont méritées de nombreux prix sur les plans national et international. Alors voilà qui est dit à propos de Jean-François Laporte et retour sur la seconde partie de cet échange qu'il m'accordait il y a quelques semaines. Fin des années 90, début des années 2000, là c'est l'apparition dans ta trajectoire, c'est l'apparition des instruments inventés. Et évidemment que suite à ce que tu nous racontes, je vois bien à la fois le technicien, le scientifique, le chercheur qu'il y a derrière ça, mais qu'est-ce qui va être la bougie d'allumage de cet intérêt pour les instruments inventés?
En fait, il n'y a pas eu un attrait vraiment pour les instruments inventés comme tels. C'était vraiment... à la base, mes parents étaient autoconstructeurs, donc je construisais des maisons avec mes parents depuis que je suis tout petit. On en a fait, avant que j'aie 20 ans, je pense qu'on en avait fait une quinzaine. Donc, j'ai cette capacité-là de travailler avec des matériaux à construire des volumes. Donc, ça fait partie de mes outils auxquels j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est là, dans mes mains. J'ai besoin de toucher aux choses. Quand je joue des instruments, c'est pareil. Il faut que ça passe à travers mes mains. Et je m'étais lancé comme défi en 97. Je m'étais dit, pourquoi il faut faire des pièces électroacoustiques? Il faut absolument que ce soit en studio. Je me rappelle, à cette époque-là, il y avait des concours où est-ce qu'on te demandait quel logiciel t'as utilisé pour faire ta pièce. Mais on s'en fout, quel logiciel? On s'en fout de quel micro? Mantra, c'était pas ça. C'était le défi, c'était de dire, OK, moi, je vais faire une pièce électro. C'est une prise de son. C'est un micro cheap qui coûte 500$. Puis je vais faire toute ma tourne avec ça. Puis quand on va l'écouter, on va avoir l'impression que j'ai travaillé dans un studio. Puis c'était pareil avec la musique instrumentale. Je me suis dit, j'ai envie de faire des pièces qui sont pas pour piano puis pour violoncelle. J'ai envie de faire des pièces avec autre chose. Puis j'ai fait, la première pièce que j'ai faite, c'est une pièce pour joueur de billes et grosse caisse de fanfare. Tu me diras qu'il y a une caisse de fanfare, mais j'ai fait ça. Après, la pièce qui a suivi en 96, c'était Dégonflement, une pièce de 25 minutes pour 12 joueurs de ballon de baudruche, 12 joueurs de ballon. Les ballons, j'en avais une montagne parce qu'on avait fait cette pièce-là. À un moment donné, tiens, je mets une ballonne sur un tuyau, un petit tuyau au début, puis ça sonne. J'entends ce son-là, je me dis, attends, il y a quelque chose là, c'est clair. Là. Puis ça a tout le temps été ça pour les instruments. C'est vraiment, je m'amuse. À un moment donné, j'entends un truc, mes oreilles, puis mes yeux, puis tout mon corps, il fait comme, hey, il y a un monde là. Puis à partir de ce monde-là, ben là, je pousse, puis mon côté scientifique va mettre en vie ces nouveaux instruments-là. Thank you.
Jean-François, sur ces instruments, on peut dire qu'il y a une famille d'instruments. C'est presque des personnes parce qu'on les nomme, tu les nommes, le flying can, l'orgue sirène de pipe. J'aimerais que tu me parles d'un de ces instruments.
Ben écoute, je vais te parler de la flying can parce que c'est le premier de la série, si on veut. Flying can, c'est très simple. Hein? C'est une canne de bière qui est perforée, que j'attache au bout d'une corde puis que je fais tourner autour de moi. C'est assez illustrateur de la chance des fois qu'on a en tant que scientifique. Écoute, j'arrive, je jouais avec la rombe, qui est, je sais pas si vous connaissez la rombe, qui est cette petite planche de bois attachée au bout d'une corde qui fait. Puis ça faisait un petit bout que j'intégrais ça dans certaines de mes pièces. Puis c'est intéressant. Puis un matin, je me dis, ah mais si je mets la corde, puis c'est pas une planche de bois, mais c'est quelque chose d'autre qui est là. Puis là, je commence à réfléchir, puis dans les poubelles, je trouve une canette de coke. Tiens. J'essaye. Puis je mets, j'attache une corde au bout d'une canette de coke, je fais un trou à peu près n'importe où, puis je fais tourner ça autour de ma tête, puis j'entends « oui, 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 oui. » Hey, j'étais impressionné. Je cours, je descends chercher mes chums à la cafétéria, j'étais à l'Université de Montréal, je remonte en haut, ça sonne plus. Puis là, je me dis « mais attends, mais pourquoi ça sonne plus? » Ça... Quand je l'ai essayé tout à l'heure, ça chantait, là, c'est... Mais tu vois ça, si après j'ai développé l'instrument, j'ai mis une aile qui permet de garder les trous toujours face au vent, qui fait que maintenant elle sonne tout le temps quand j'ai besoin que ça sonne. Mais tu sais, au début, la première expérience, si je l'avais fait tourner puis ça n'avait pas sonné, je l'aurais mis dans les poubelles, je l'aurais passé à autre chose. Mais comme ça avait sonné, ça a attrapé ma curiosité, puis j'ai cherché à comprendre pourquoi ça faisait du son puis que ça n'en faisait plus. Puis j'ai développé l'instrument. Au départ, il y avait un trou, maintenant il y en a deux. Il y a une ailette qui est positionnée, que je peux bouger aussi. Ça, c'est hyper enrichi. Puis la première pièce que j'ai faite avec cet instrument-là s'appelle Rituel. Et Rituel, en fait, c'est une pièce que j'ai jouée peut-être 300 fois. C'est vraiment un geste dans lequel je suis un axe sur lequel je fais tourner un instrument. Et contrairement à la majorité des instruments qu'on connaît, où on est obligé de développer une technique, une dextérité avec nos doigts, une technique qui fait qu'on est capable de répéter constamment. Là, je peux juste jouer avec la vitesse de l'instrument. L'instrument est à peu près à 2 mètres de moi et il chante tout seul. Et c'est vraiment mes oreilles qui doivent être connectées sur le son pour y donner toutes les variations possibles, avec juste en changeant un petit peu la vitesse de rotation de l'instrument qui me permet de faire des mélodies. Puis,
Alors Jean-François, on va écouter ensemble... un extrait ou de ce rituel réalisé avec la flying can. Jean-François, parmi ta famille d'instruments, il y a l'orgue de sirène. Et ça, c'est un bel instrument, soit dit en passant, là, visuellement très beau. J'aimerais que tu nous en parles.
Mais ça vient, l'orgue des sirènes, quand j'ai fait ma symphonie portuaire en 98. J'avais eu, en fait, en 97, j'ai joué sur la symphonie de Monique Jean. Et évidemment, pour ceux qui connaissent un peu les symphonies portuaires, t'as des bénévoles qui sont sur les bateaux, sur les trains, et qui manipulent les klaxons. Jusqu'en 97, c'était surtout le signal qu'on utilisait. Donc, on appuyait sur le bouton, pout, 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 pout. Moi, je me suis retrouvé sur un train pour la partition de Monique Jean, et j'ai pas pu m'empêcher de mettre mes mains dans le pavillon de la sirène, parce que... Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait si je mets ma main dedans. Et Monique, elle a entendu ça, puis elle me dit, mais je veux, qui a fait ce son-là? Je veux ce son-là dans ma pièce. Et donc, on a fait la création de sa pièce, et j'ai proposé à la personne responsable du Musée Pointe-à-Calière de faire la prochaine symphonie portuaire en expliquant ce que j'avais envie de faire, donc de trafiquer les sirènes, d'avoir des gens qui mettent des bâtons, des mains, des couvercles dans les sirènes. Et quand j'ai commencé à faire mes propres recherches avec les sirènes de bateau, je me suis dit, mais attends, c'est tellement puissant. J'en veux un dans mon atelier que je peux jouer quand je veux. Je me lève, que ça me tente, je joue de l'orgue des sirènes. Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé beaucoup de sirènes de camions lourds qui ressemblent à les sirènes de bateau, qui sont juste plus petites. Les sirènes de bateau, il faut savoir que ça peut peser plusieurs tonnes et c'est gigantesque. Donc, j'ai abandonné l'idée d'avoir une vraie sirène de bateau, mais sirène de camion lourd, c'est aussi puissant. Et en fait, ce que j'ai développé, on va dire, avec l'instrument, c'est une capacité d'avoir cette puissance, parce que c'est quand même un camion lourd qui est dans ton atelier. Mais d'y mettre des contrôles qui sont aussi très subtils, qui permettent d'avoir juste du souffle, juste des trucs très, très doux, très, très fins, avoir juste de l'air, avoir le début de la note qui est pianissimo. Donc, j'ai rajouté des pédales, des robinets que je contrôle à la main. Et j'avais fondé déjà en 95 l'ensemble Totem Contemporain. En 2003, j'ai développé la compagnie, donc on s'est incorporé. Puis, et c'était assez clair depuis le début que j'avais envie que d'autres artistes se joignent à cette folie de recherche et qu'ils mettent leur input dans la recherche autour des nouveaux instruments. Et donc, j'ai fondé la série Totem Électrique, dans laquelle je commande des œuvres à des compositeurs. Et la pièce que j'aimerais qu'on écoute, c'est une pièce de Félix-Antoine Morin qui s'appelle Plateforme, qui est pour bande et orgue de sirène. Et pour moi, c'est une pièce magique, c'est puissant et j'adore.
Jean-François, dis-moi, tu t'es pas cantonné au cours de ta carrière uniquement à la composition. C'est que tu as senti le besoin, bon, de créer des instruments, mais aussi d'adopter une position plus performative à travers les spectacles, mais aussi à travers des installations que tu as réalisées.
Oui, en fait, si tu veux, je suis cantonné à la musique en termes d'étiquette, parce que j'ai fait mes études en musique, mais je pense que je serais beaucoup plus... En fait, je pense que je cadre plus avec quelqu'un qui aurait fait des études aux Beaux-Arts et qui ferait de l'art audio à côté, où la performance fait partie de la chose. En fait, c'est tout. Donc, c'est plus juste le rapport à la partition et la pièce que tu écris, mais c'est tout un contexte, le lieu dans lequel tu vas présenter ton travail. Est-ce que c'est toi qui performes? Comment tu performes? Je suis pas mal plus proche de cette école-là que de l'école on écrit tout sur la partition, puis après ça, on donne ça aux musiciens. Moi, c'était clair dans mon approche que avant d'écrire une tune, j'ai besoin d'entendre les sons, donc il faut que je les joue moi-même. Après ça, je vais les donner à un musicien qui est pas mal meilleur que moi, puis qui va aller plus loin dans le processus. Mais donc, ça veut dire déjà qu'à la base, ça passe à travers moi. En tant que performeur, même si c'est pas devant un public, il reste que quand je prends le violoncelle puis je fais mes recherches, c'est moi qui performe. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai des oreilles qui sont assez singulières et que souvent, en fait, je suis mieux servi par moi-même en tant qu'interprète que... évidemment, avec mes instruments, la question se pose pas parce que c'est moi qui les ai inventés, donc il y en a pas d'autres meilleurs. Il y en a d'autres qui jouent, qui sont très très bons, mais il reste quand même, c'est moi le père de ces instruments-là, donc j'en joue d'une façon aussi assez complète.
Jean-François, pour clore notre belle rencontre de ce matin, dis-moi, c'est quoi les projets en cours puis les projets qui sont à venir, même si c'est un peu au ralenti à cause de la pandémie?
Oui, mais c'est jamais ralenti pour un artiste. Hein. C'est pas parce qu'on ne peut plus faire de concerts qu'on ne travaille plus. Au contraire, c'est l'occasion. En général, si je me plains parce que j'ai pas assez de temps dans mon atelier, parce que je suis tout le temps tourné, puis que je me dis, bon, quand est-ce que je peux rentrer au moins? Puis souvent, je rentrais... 10 jours, 2 semaines, puis il fallait que je reparte. Donc, c'était comme un peu chaotique comme mode de travail. Donc là, je suis là à temps plein, donc c'est plus facile. Je travaille sur une installation qui s'appelle Choir, chœur en français. Plaque de métal en acier inox prolongée d'un haut-parleur 15 pouces. Puis en fait, c'est une pièce audiovisuelle sur laquelle je fais des projections vidéo sur les plaques, comme c'est des plaques à surface miroir et réfléchissent la lumière. Donc évidemment, sur les murs, sur le plancher, sur le plafond, c'est pas de la vidéo qu'on voit, mais on voit la réflexion de la lumière. Et je me sers de la vidéo justement pour pouvoir modifier cette lumière-là. Donc ça, c'est un projet d'installation qui devrait avoir le jour d'ici au courant de l'année 2021. Je suis en train de faire de la musique pour un spectacle de danse de la compagnie La Zampa, qui est une compagnie française. Curieusement, pour ce projet, je vais détourner une pièce de Mahler, la 5e symphonie. J'utilise, je pense, la première minute et demie que je déconstruis et que je l'amène complètement ailleurs. Et il y aura beaucoup de travail sur le souffle des danseurs et du mobilier qui sera sonorisé, qui fera partie, en fait, leur déplacement, leur mouvement sera sonorisé, c'est ça qui fera la trame sonore. C'est assez radical, mais c'est assez intéressant. Et puis sinon, ben, je réfléchis beaucoup à m'en aller à commencer à faire du travail audiovisuel, donc travailler avec l'image. Donc je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, mais c'est quelque chose que j'ai envie de voir, qu'est-ce que je peux arriver à faire avec ça.
Et Jean-François, écoute, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre, et puis J'ai le goût de clore cette émission avec un extrait de ce malheur que tu exploites là, depuis quelques mois.
Avec plaisir. Merci, Gaétan.
Allez, salut.
À bientôt.
Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Grand merci à Jean-François Laporte de nous avoir permis la diffusion de ses œuvres sonores et musicales, dont vous retrouverez les titres sur le site de La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Ici Gaétan Gosselin qui vous salue.
Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL.